Bonjour à tous et à toutes, bonjour à toutes et à tous, du primaire aux études supérieures, c'est tout le système français scolaire qui se retrouve bouleversé par l'ambitieux Jean-Michel Blanquer. Aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale, il décide de bouleverser les codes de la scolarité en France. Cela plaît, mais déplaît aussi, en témoignent les blocages à Tolbiac ou encore à Sciences Po Paris. En tout cas, l'actualité m'espère que Jean-Michel Blanquer ne touchera pas à une personne, les maîtresses. Maîtresse ou maîtresse, des mille et images sur l'actualité. On vous parle pendant 30 minutes des réformes scolaires sur PFM 99.9. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul pour vous en parler. Je suis accompagné de Chloé.
Bonjour.
D'Élise.
Salut.
D'Emma.
Bonjour.
Et de Julie à la régie.
Bonjour.
Donc comme vous l'aurez compris, nous allons parler de la scolarité en France et on va commencer par les récentes recommandations du ministre de l'Éducation nationale concernant le primaire. Donc Jean-Michel Blanquer prévoit donc une sorte de retour aux bonnes vieilles méthodes, à la vieille école on peut dire, en proposant notamment donc dans trois domaines, l'écriture, la maîtrise de la langue, le calcul et la lecture, différentes recommandations. On va commencer par l'écriture, il propose une dictée quotidienne ainsi que deux écritures d'exercices par jour, une formation accrue à l'écriture cursive, 3 heures dédiées à la grammaire et au vocabulaire. Bon, je pense que vous avez vu toutes ces réformes concernant l'écriture. Est-ce que vous êtes pour notamment cette dictée quotidienne, cette bonne vieille dictée quotidienne? Je ne sais pas si vous l'avez fait pendant le primaire, non? Vous n'y avez pas eu le droit?
Pas tous les jours, en tout cas.
Non, pas tous les jours.
Je crois que c'était une fois par semaine.
Il y en a qui avaient de la chance, parce que moi j'ai eu le droit à une dictée tous les jours, mais...
Monsieur,
mais c'est là où je remercie mon instit de primaire. Hein. Merci Madame Varembourg.
Putain, tu t'en souviens?
Oui. Donc, est-ce que vous êtes pour un peu ce retour aux bonnes vieilles méthodes? Oui. Chloé?
Bah moi oui, je suis pour parce que le problème c'est qu'on remarque qu'il y a énormément de Français qui savent pas bien écrire et parler le français. Donc je pense que des dictées tous les jours, ça peut vraiment permettre aux futures générations de mieux parler et écrire.
Très bien. Emma, qu'est-ce que t'en penses?
Moi aussi, je suis pour parce que c'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à écrire quelque chose normalement sans faire de fautes. Et même nous, on fait des fautes à l'oral. Donc ouais, je trouve que c'est bien de restaurer la dictée quotidienne.
Élise, t'es du même avis?
Oui. Ouais. Moi, je trouve que c'est bien. Bah, ça permet de se corriger au fur et à mesure des jours.
Aussi. Très bien. Jean-Michel Blanquer a aussi préconisé l'utilisation de cahiers à grands carreaux. Est-ce que vous pensez pas que ça va un petit peu trop loin? Il est en train de recommander certains types de cahiers. Est-ce que ça va trop loin, Chloé?
Bah quand même, ça fait beaucoup aller jusqu'à... Enfin, je sais pas, normalement... Je sais pas, chaque parent achète les cahiers à sa façon, quoi. En fonction de l'enfant, comment il préfère, etc. Donc pourquoi aller jusqu'à... Puis à quoi ça servirait de prendre des cahiers forcément à grands carreaux? Enfin...
Je sais pas, je pense que c'est pour l'écriture... C'est plus simple que les petits carreaux qu'on a en maths, notamment.
Ouais, peut-être, mais après, je crois que les trois quarts des gens prenaient déjà les grands carreaux. Les petits carreaux, généralement, c'est juste pour les maths, donc...
Oui, Emma, je vois que tu fronces les...
Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Pour moi, je crois qu'on s'en fout un peu du cahier. Ouais. Je sais pas.
Peu importe, ouais.
Moi, je pense que c'est l'élève qui choisit sa méthode son cahier.
Mais est-ce que vous pensez pas, justement, c'est ce que les inspecteurs disaient? Quand ils venaient inspecter une instit, ils pouvaient pas forcément la corriger selon les méthodes qu'elle avait. Est-ce qu'il n'y avait pas de texte référent, mais de recommandations auxquelles se référer? Et justement, le fait peut-être d'avoir aussi que ce soit plus pointu, ce serait une bonne chose pour les inspecteurs?
Bah oui, ils savent mieux évaluer.
Forcément, mais alors ce serait mieux pour les inspecteurs, mais pour les...
Pour les élèves, pas forcément. Ça leur porterait pas forcément préjudice, puisque une fois qu'on leur dit de le faire avec des grands carreaux, si tout le monde le fait avec des grands. Enfin, je pense que l'élève s'en fiche un peu, quoi. Moi, qu'on mette un cahier à grands carreaux ou à petits carreaux, c'est un peu pareil.
Élise?
Moi aussi. Enfin, après, ça dépend. Ceux qui ont une mémoire visuelle, c'est peut-être différent.
Ouais, je sais pas.
Ouais. On va aborder aussi maintenant le calcul. Il préconise 15 minutes de calcul mental par jour, un apprentissage par cœur des tables d'addition dès le CP, et tout cela pour permettre aux enfants de savoir compter, et aussi, pardon, des plusieurs méthodes pour permettre à l'enfant de savoir compter jusqu'à 30 en maternelle. Est-ce que on va dans le bon chemin, sachant que la France est quand même un des derniers pays de l'Union européenne en mathématiques? On va dans la bonne voie, Chloé?
Bah oui et non, parce que on va dans la bonne voie dans le sens où on essaye de les instruire le mieux possible. Mais d'un autre côté, moi je le vois avec mon petit frère de 5 ans et ma petite sœur de 7 ans, on leur en demande énormément. Arrivé au CP, on leur en demande. C'est énorme le programme de CP, de CE1 et tout ça. Et je trouve que c'est beaucoup pour des enfants de 5-6 ans de leur faire comme ça. Enfin, des fois c'est abusé, moi ma sœur elle peut mettre 2 heures à faire ses devoirs le soir alors qu'elle a 7 ans quoi. C'est énorme.
Et Emma, est-ce que tu trouves que l'apprentissage par cœur des tables d'addition en CP, c'est trop tôt?
Bah je sais pas, mais ça peut être utile, mais d'un côté c'est quand même un peu beaucoup pour le CP, je pense.
Ouais, j'ai peur qu'on les surcharge en fait.
Ouais.
Ouais, vous avez peur qu'on les dégoûte des maths, Élise?
Ouais, un peu,
je pense.
Plus un peu après le CP.
Attends, le CE1, CE2.
CE1, ouais. CE1, c'est un peu plus léger comme programme.
Ouais. C'est vrai que le CP, c'est un très gros programme.
Il y a forcément la lecture, d'ailleurs, on va y venir, ouais. Jean-Michel Blanquer préconise donc un recours généralisé à la méthode syllabique, un recours à un seul manuel de lecture et non des photocopies, ainsi que l'étude de 5 à 10 livres par an du CP au CE2. Chloé, tu parlais de la charge de travail donc qui était abusée. Mm-hmm. L'étude de 5 à 10 livres par an du CP au CE2, c'est pas trop?
Comment?
L'étude de 5 à 10 livres par an du CP au CE2.
C'est beaucoup quand même.
C'est beaucoup, tu trouves?
Ouais, ouais. Même nous, on fait pas ça, j'ai l'impression. Déjà, l'année dernière, j'ai même pas fait 4 livres. Alors, 5 à 10, je trouve c'est énorme quand même.
Déjà que je trouve que le lycée, pour moi, c'est le moins chargé. C'est déjà plus dur que le collège. Par exemple, en seconde générale, c'est plus dur qu'une troisième. Mais je trouve qu'on est moins chargé. Alors qu'au collège et en primaire, on nous surcharge vraiment d'exercices tout le temps. Il n'y a pas un soir où on n'a pas de devoir. Même, sauf si vraiment on s'en prend en avance, mais si vraiment on fait de la journée pour le lendemain, tous les soirs on a du boulot, on a plein d'exercices et tout ça. Et si on fait pareil pour la primaire, j'ai peur que vraiment à 5-6 ans ça les surcharge. Et 5 à 10 livres, c'est énorme.
Ouais, vas-y, Elise.
Bah, moi je pense que peut-être pas 5 à 10 livres, mais 1 à 5 livres, ça serait bien.
Voilà. Ouais, déjà. Mais des c'est petits bien. Quoi. Ils devraient lire par exemple un livre pour. Enfin, genre en 2 mois, ils devraient lire un livre.
Ouais, c'est ça. C'est
ça bien. Devrait être comme ça. Parce qu'on se rend pas compte, mais. Enfin, quand ils sont petits comme ça, ils apprennent tout juste à lire et ils sont super longs. Enfin, à lire une page, ils vont mettre 1 minute quoi. Alors que nous, on va mettre peut-être 30 secondes. Donc il faut doubler leur temps de lecture. Donc après, ça risque. J'ai peur que ça risque de dégoûter de la lecture, les enfants. Déjà qu'il n'y a plus beaucoup d'adolescents qui lisent des livres comme ça pour le plaisir. Enfin, je trouve quand même que la moitié des adolescents n'aiment pas lire. Alors si dès l'enfance on les surcharge avec plein de lectures et qu'à la fin ils sont dégoûtés de la lecture, c'est bête. Parce qu'on apprend plein de choses en lisant.
Emma, t'en penses quoi par rapport à ce qu'a dit Chloé?
Bah je sais pas du tout.
Ouais. Ça, donc vous pensez vraiment que ça pourrait dégoûter l'enfant dans...
Ouais, quand même. Parce que bah, même nous, c'est dur quand même pour commencer un livre de cours. Même moi qui aime bien lire, je mets vraiment beaucoup de temps pour commencer à lire un livre. Mais je trouve, enfin, pour la primaire, c'est beaucoup trop. Ouais.
Peut-être pas forcément lire des livres, mais par exemple, obliger l'élève à lire, par exemple, une page de journal chaque jour.
Oui.
Quelque chose d'un peu plus facile,
chose, en tout cas, ouais,
peut-être
choix.
Plus court, mais qu'il fait lire quand même.
Ouais, est-ce qu'il faudrait que ce soit de son choix ou faut que ce soit imposé?
De son choix.
De son choix,
il y a plus de motivation.
Après, oui, peut-être qu'il faudrait qu'il y en ait un dans l'année qui soit imposé, quelque chose qui pourrait... comme nous, qu'on a des livres imposés, parce que c'est des livres qui sont dans le thème du chapitre ou de la séquence qu'on fait au moment, tu vois. Ouais. Donc oui, il faut... Mais pas à leur âge, quoi. Au moins, enfin, maximum un. Ils sont jeunes, il faut les laisser encore lire des choses qui leur plaisent et tout ça. C'est pas à 6 ans qu'il faut les blinder de bonne lecture entre guillemets, c'est-à-dire de lecture compliquée où on apprend beaucoup de choses sur la société, sur tout ça. Je pense que quand ils sont jeunes comme ça, c'est de la lecture plaisir pour moi. Jusqu'à 10 ans, ça doit être de la lecture plaisir. Sinon, après, ça va les dégoûter de la lecture. Et déjà que c'est déjà un peu le cas, alors on va pas leur en rajouter encore plus.
Très bien. Toutes ces réformes, normalement, elles ont été mises en place dans le but d'aider l'élève. Est-ce que justement avec toutes ces réformes on va un peu à contrario? Est-ce qu'on aide vraiment l'élève ou on est plus en train de lui mettre des bâtons dans les roues et peut-être...
Bah moite-moite quoi, la dictée je pense que ça peut l'aider. Mais après c'est 5 à 10 livres et par année et le... C'était quoi? Ouais, le calcul mental comme ça, en mode vraiment surcharge, je pense que ça risque de lui porter préjudice. Il
oui. faut le faire à petite dose en fait.
C'est ça, il oui. faut que ça vienne progressivement.
Très bien, on va aussi parler du rythme scolaire maintenant. Donc en primaire, c'est 4 jours et demi, hein, je crois.
Ouais, ça c'est pareil, c'est trop. Le mercredi.
C'est beaucoup trop.
Ouais.
Ouais, pour les petits, ouais. Bah déjà, mon école primaire, bon, à un moment, on a eu que 4 jours de cours. Mais on finissait à 17h, mais quand ils ont dû rajouter le mercredi matin, pour les petits, ça a été dur. Même les ouais. parents, ils n'ont pas été hyper contents que leur enfant devait aller à l'école le mercredi. Ouais.
Bah, je ne sais pas si vous avez des petits frères et sœurs, mais moi, je vous dis, je le vois avec mon petit frère et ma petite sœur. C'est trop pour eux le mercredi matin en plus.
Moi, j'ai connu les 4 jours et demi. Moi, je me souviens, c'était voilà. le samedi matin. D'accord. C'était pas le mercredi matin, c'était le samedi matin. Et souvent, alors c'était pendant 3 ans, si c'était pendant aussi. La maternelle. Oui et non, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas beaucoup, c'était surtout beaucoup d'ateliers dessin, parce qu'il n'y en a pas beaucoup ouais. qui venaient forcément. Alors je ne sais pas comment ça se passe maintenant dans toutes les maternelles et primaires. Élise, tu penses aussi que c'est trop, les 4 jours et demi?
Oui, bah à ce moment-là, comme faire du dessin, ça irait, mais sinon c'est un peu trop quand même.
Ouais, et même par rapport au collège, les 4 jours et demi... Est-ce que, Emma, qu'est-ce que tu en penses par rapport au collège, les 4 jours et demi, est-ce que c'est trop aussi?
Non, au collège, c'est bien, c'est pas le même travail qu'en primaire, donc au collège, c'est bien 4 jours et demi.
Ouais. Et puis, s'ils enlèvent le mercredi matin, je me demande comment ils vont pouvoir caser tout le programme ouais. et toutes les matières en une semaine.
Pourquoi ça les fait finir tard et c'est
ça. Moi, je préfère avoir cours le mercredi matin que faire du 8h-18h tous les jours.
Ouais. Et est-ce que vous pensez pas aussi qu'il y a trop de vacances, quelque part?
Ah, si.
Parce que... Même si, tu le disais, le mardi par exemple, il y a des semaines, je fais du 9h-18h. Bon bref, je vais pas m'étaler sur mon emploi du temps, mais il y a quand même des emplois du temps qui sont un peu surchargés. Ouais. Est-ce que c'est pas dû au fait qu'on aurait trop de vacances? Est-ce que supprimer des vacances,
je pense.
Ce serait pas une bonne idée pour finir plus tôt?
Parce que le problème, c'est que comme ça, 2 semaines de vacances tous les 6 semaines, je suis pas sûre qu'on ait besoin de 2 semaines pour se reposer intégralement. Je pense qu'une semaine, ça suffit.
Bah, ouais.
Et au moins, toute l'année, nos emplois du temps seraient plus légers. Et du coup, on respirerait mieux. Et on pourrait à la fois aller en cours et faire nos devoirs, mais à la fois avoir une vie sociale, un petit peu comme...
Ouais. Moi, je pense que si on fait
juste le week-end,
une semaine de vacances, faudrait alléger les devoirs.
C'est ça.
Faire moins de devoirs pendant les vacances, même pas du tout, et...
C'est ça. Bah, je pense qu'il faudrait qu'on ait vraiment une semaine de vacances tous les 6 semaines, et qu'elle soit vraiment plus... Vraiment sans devoirs. Comme ça, on pourrait vraiment en profiter pour nous reposer, et après, on reprendrait l'école du bon pied, quoi.
Donc, une semaine de vacances tous les 6 semaines, c'est-à-dire qu'à la Toussaint, tu ferais une semaine
Les vacances d'hiver, pareil, Pâques,
les
pareil.
Les vacances d'hiver, donc février. Noël, février, une semaine. Alors,
non, Noël par contre.
Noël, non.
Noël, gardez les 2 semaines.
Je pense qu'il faut rester 2 semaines. Parce
Noël, il faut garder 2 semaines.
An,
c'est avec le nouvel an et tout ça, c'est pas possible. Hein. Oui. Tu peux pas faire nouvel an et aller en cours le lendemain, quoi. Et même les 2 jours après, c'est compliqué. Enfin bon, sauf si tu regardes la télé à nouvel an, mais bon, les 3/4 du temps... Tu te couches pas tôt, quoi.
Non, les 3/4 du temps, fais pas que regarder la télé non plus, quoi.
Et puis même si tu te couches à 2h du matin, tu t'es quand même dépensé pendant à Noël, à Nouvel An et tout ça, donc t'as pas envie de reprendre les cours
c'est ça.
Genre une journée après, quoi.
Mais par rapport aux vacances de février, ce serait le tourisme qui en pâtirait, tu penses pas?
Ouais, pour le ski, ouais, bah...
Ce serait pas un problème, justement? Parce que déjà l'année dernière, les vacances de printemps avaient été décalées pour pouvoir, à ceux qui aiment faire du ski de printemps, de venir... pouvoir en faire, et du coup on avait une période de 12 semaines, je crois, un truc énorme.
Bah du coup, déjà, les grandes vacances, par exemple 2 mois, c'est trop.
Ouais.
C'est énorme.
Combien?
Bah, un mois et demi, ou même 1 mois et 10 jours, ou je sais pas, mais pas 2 mois.
Ouais. Emma, t'es du même
avis?
2 mois.
Ouais, 2 mois de vacances, là je trouve c'est beaucoup trop, même moi, enfin on s'ennuie tous à la fin.
Ouais,
tu pars en vacances, et après c'est tout, tu fais plus rien, tu t'ennuies, tu...
Moi là ça va, cette année je suis en stage, donc j'ai mes vacances que le 14 juillet, et je pars en vacances du 2 au 19 août, mais honnêtement, si j'avais pas eu de stage, je me serais ennuyée. Qu'est-ce que j'aurais fait comme ça pendant 2 mois? Certes, tu vois tes potes un peu par-ci par-là, tu pars en vacances, mais les 3/4 des gens, ils parlent pas en vacances plus de 2 semaines, à moins d'avoir vraiment d'être aisé, quoi. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu vas faire après? Généralement, pendant un mois, tu t'ennuies de toute façon.
Ouais, Élise, t'es du même avis?
Oui, bah oui, mais ça dépend, enfin...
Ouais, ça dépend des années, personnes. Quoi. Oui, voilà, et des années, des fois tu sors plus que d'autres, mais bon.
Ouais.
Et à ce moment-là, donc, si on supprime les vacances, forcément, il faut qu'il y ait une compensation au niveau des emplois du temps.
Mm-hmm.
Est-ce que vous seriez pour mettre des jours fixes, c'est-à-dire que tous les jours, on ferait un certain nombre d'heures?
Ouais.
En cours, par exemple, à 8h, 15h, enfin, je sais pas, je dis ça comme ça.
Je sais pas.
Ouais.
Je sais pas.
Par rapport à la compensation, non?
Bah oui,
je sais pas.
C'est des journées plus légères, on est moins fatigué le soir, on a plus de temps pour travailler ou même se reposer le soir, c'est bien moi je trouve.
Ouais, c'est vrai que genre faire des journées de 8h, 18h ou 9h, 18h, c'est beaucoup trop pour nous. Ouais. Même à la fin, on est mais il nous reste encore combien de temps de cours là, donc
c'est ça.
Ouais, c'est mieux d'alléger quand même, terminer à 15h ou 16h. Mais je crois qu'en Allemagne, il me semble, ils ont cours que le matin, l'après-midi. Ils
font 6h le matin.
Ils ont des activités.
Oui, c'est ça. Donc, et je crois que c'est facultatif. C'est-à-dire que.
Et c'est plus léger, ouais.
Par année, enfin par semaine, ils doivent certainement avoir leurs heures, par exemple, de sport. Parce que je pense pas que le sport, ce soit le matin, ça doit être l'après-midi. Mais s'il y a d'autres activités, je pense qu'ils choisissent un peu leur emploi du temps est variable. Ouais. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que personne n'a vraiment le même emploi du temps là-bas. Et du coup, chacun travaille et chacun a cours un peu comme ça lui va. Comme il...
ouais. C'est ça, c'est un peu le cas au Canada et c'est en Australie aussi.
Et ça, c'est
aussi.
Bien, parce qu'on n'est pas tous pareils, on est tous uniques. Et du coup, on n'a pas tous la même façon d'apprendre, la même façon... Et on a des gens qui ont besoin de dormir plus, des gens qui peuvent dormir 5 heures et être bien pas fatigués le lendemain. Donc, il faut adapter. Et là, faire 8h, 18h tous les jours, c'est pas possible.
Après, il y a aussi des personnes qui ont des compétences artistiques ou dans le sport. Ils ont aussi plus de temps pour développer ça eux plus tard.
C'est ça. Tous ceux qui font sport-études et tout, c'est épuisant.
Mm.
Parce que ils ont...
Bah, sport-études, c'est aménagé quand même.
Ouais.
Ouais, mais quand même. T'imagines, quand t'es en temps partiel, tu fais 10 heures par semaine et quand t'es en temps complet, tu fais 20 heures. Enfin... 10 heures de ton sport. Hein.
Oui,
et,
oui, oui.
Et donc, si en plus tu rajoutes tous les cours comme ça, je trouve que c'est ce taux de vacances trop énorme. Et nous, la semaine, ou avec les. Je sais pas, ils pourraient faire quelque chose. Moi, franchement, je préfère avoir moins de vacances et être plus calme le reste de l'année où t'as plus de temps.
Plus de temps pour soi.
Parce que honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais nous c'est parce qu'on a la radio et qu'on fait d'autres choses à côté, mais ça vous irait vous de vous lever le matin, d'aller en cours, de rentrer, faire vos devoirs, regarder la télé et vous coucher? Moi ça
non,
me plaît pas.
Non,
moi ça me déprime, ça me file le cafard.
Oui, ça me déprime aussi.
Mais je me dis, à la fin de la semaine, je me dis, waouh, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai été en cours, j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé la télé, j'ai dormi. Ouhou.
Rien d'autre, on n'a pas de. Enfin, je sais pas, c'est.
Ouais. Après, c'est mieux, par exemple, les gens qui ont plutôt des difficultés, ils ont plus de temps le soir pour faire leur boulot que. Même si tu veux t'avancer, t'as plus de temps,
c'est
tu peux te laisser un soir de libre.
Voilà.
Puis surtout, ça favoriserait la pratique d'activités sportives.
Oui,
notamment,
voilà. Il y en a beaucoup qui font pas de sport parce qu'ils ont pas le temps.
Ouais. Bah, le sport, la musique, tout ça. Quoi.
Tous les trucs comme ça. Il y a plein de choses. Hein. On n'est pas obligé de faire du sport. Il existe énormément de choses. Mais.
C'est ça, on pourrait mettre en place des activités aussi l'après-midi, un peu comme
c'est
en
ça.
Allemagne, ce dont
c'est
tu
ça.
Nous parlais, Emma.
Ça, ouais. Je trouverais vraiment que ce serait sympa.
D'accord, bah très bien, on se retrouve pour une deuxième partie juste après une petite pause musicale, à tout de suite. I can feel it on the back of my tongue. All of the words getting trapped in my lungs. Heavy like a stone, waiting for the river to run. I can feel it on rebonjour à toutes et à tous. Je suis toujours en compagnie d'Emma.
Re.
De Lise, pardon.
Rebonjour.
De Chloé.
Salut.
Et de Julie.
Bonjour.
Donc après avoir parlé du primaire et des rythmes scolaires, maintenant on va s'attarder un peu sur la réforme du bac, ce bon vieux bac qui est vieux de 210 ans, qui a été créé sous Napoléon, qui va changer. On en a parlé il y a déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, on est un petit peu en retard. Donc il y a notamment la disparition des séries de la voie générale, donc avec un seul tronc commun composé de l'histoire géo, de langues vivantes, le français, la philo et une nouvelle matière qui s'appellera humanité scientifique et numérique. Donc en gros, ça va être des cours de codage et de bioéthique.
Mais la philo, ça reste pas juste en terminale. Il me semble avoir lu ça. Comme quoi, la philo, ils le rajoutaient en terminale.
Alors,
je suis pas sûr, hein, je dis peut-être n'importe quoi.
Non, oui, si, c'est en terminale, la philo.
Le disais bien.
Oui. Oui, c'est en finale, oui, c'est ça. D'ailleurs, ce tronc commun, il occupera en première 16h et 15h30 en terminale. Alors, avant d'aborder les autres aspects de ce bac, est-ce que vous trouvez ça un peu dommage qu'on néglige les matières scientifiques? C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura plus vraiment ces matières scientifiques dans le tronc commun, pardon. Seulement une matière humanité scientifique et numérique, mais qui durera seulement 2 heures, quoi. Donc,
ouais, c'est dommage pour les personnes qui sont plus forts en scientifique et qui sont pas forts en littéraire.
Ouais, bah après, vous avez les SP, non, il me semble.
Il y a les SP, justement. Donc, il y a les SP mathématiques, voilà. SVT, physique, chimie.
Simplement... Le truc, c'est qu'on est obligé d'en choisir un des trois aussi, non?
Ouais.
Non, en première, on peut en choisir 3.
Ah, ça va. Ouais, t'auras un gros emploi du seulement... temps, mais ça te permettra de faire les 3.
C'est seulement 2
en terminale.
Il faut en abandonner une, en fait. Et tu peux changer entre les deux seulement.
Moi, ça ne me correspond pas, mais c'est vrai que pour les gens qui sont très scientifiques et moins littéraires, ça peut être préjudiciable.
Ça, est-ce que la France, donc dans le classement au niveau européen, niveau des maths, on fait partie des derniers?
Est-ce c'est que sûr que c'est pas moi
qui ai pas aidé cette réforme. Est-ce qu'elle n'aide pas vraiment les élèves en difficulté, enfin les élèves en maths? Est-ce que vous trouvez ça dommage, justement?
Bah oui, parce que les maths, on a besoin de toute notre vie, même juste pour payer quelque chose, c'est important.
Ouais, mais ça dépend aussi. J'ai l'impression que le programme de maths est trop vaste. C'est-à-dire qu'ils nous font apprendre des choses qu'on doit apprendre, genre quand on est en ingénierie ou des trucs comme ça.
Bah, j'avoue, il y a plein de trucs qui vont nous servir strictement à rien, mais on nous l'apprend quand même, ça nous intéresse pas forcément.
Général, de toute façon, pour moi, le collège, j'ai toujours dit, tu as besoin de 30% de ce que tu apprends environ. Et ça, c'est pas normal.
Ouais, parce qu'après, tout ce qui est triangle, ça va nous servir à rien.
La trigonométrie,
Non, la trigonométrie, Pythagore et tout ça, ça te sert quand tu veux être architecte.
Oui,
et si jamais tu veux faire construire ta maison. Mais il y a tellement de gens pour t'aider pour ça. Il y a des gens qui font ce métier. Enfin, si le métier existe, autant l'utiliser. Mais pourquoi nous faire apprendre toutes ces choses qui nous serviront pas?
Ça devrait être en études supérieures pour architecte.
Et ils devraient, comme ça, réduire le programme de maths pour qu'on puisse avoir des maths qui nous serviront vraiment et qu'on les approfondira vraiment. Et au moins, il nous servira, quoi. Parce que là, on apprend plein de choses qui nous serviront à rien.
Le problème, c'est que... Comment est-ce que tu veux qu'un élève, il sache « Oui, ça j'aime bien, je veux faire architecte. » Le problème, c'est qu'il y a forcément ce déclic...
Les stages
Que
vous faites pas assez.
Oui, peut-être, les stages.
Mais il y en a beaucoup qui sont pas invités à faire de stages dans certains lycées aussi.
Et même à ce propos-là, les stages, le problème, c'est qu'il faut être motivé pour en faire un. Il faut le faire dans le métier que tu souhaites faire plus tard.
Il faut être pris, des fois t'es pas pris.
Imagine, tu passes à côté de quelque chose parce que t'as pas étudié le cercle trigonométrique en maths. C'est pas compliqué non plus, le cercle trigonométrique.
Oui, non.
Mais ce que je veux...
Pour toi.
Je suis pas l'un des meilleurs en maths, loin de là.
T'es quand même meilleur que nous, apparemment.
Pas spécialement, tu sais. Je préfère pas divulguer les moyennes à l'antenne. Hein. Moi, je trouve ça quand même dommage qu'on abandonne peut-être les maths et les matières scientifiques. Chaque élève doit avoir un bagage scientifique assez conséquent. Ça fait partie de la culture générale, j'ai envie de dire. Emma, t'en penses quoi?
Il y a beaucoup de trucs, c'est de la culture générale dans les matières scientifiques. Bah, c'est vrai qu'en physique chimie, la moitié des choses que t'apprends, c'est culturel, c'est de la culture générale.
Et ça a vraiment de servir.
Et si tu sais pas ça, c'est... Enfin, c'est bidon, quoi. Mais c'est bien de le savoir, ouais.
C'est vrai. Ouais, mais rien que si ta voiture, elle est en panne, il y a plein de trucs en physique chimie.
Ouais, les SVT, la physique chimie, c'est de la culture générale. Et c'est, ça nous sert beaucoup dans la vie, ça aussi, je trouve.
C'est ça. Mais c'est, moi, les maths, je dis pas qu'il faut l'abandonner. Je dis juste qu'il faudrait juste réduire un peu le programme. Parce qu'il est un peu trop conséquent à mon goût.
Élise, tu serais carrément pour les conserver ?
Ouais, moi j'aime bien. Enfin, moi je suis plus scientifique, tout ce qui est littéraire, j'aime pas du tout. Donc, oui, puis je reviens sur la culture générale avec la SVT et les sciences physiques. C'est quand même super important de garder ça dans notre emploi du temps.
Ouais, ça je suis d'accord.
Emma ?
Ouais, je suis d'accord avec Élise.
Une heure au moins de SVT et une heure de physique obligatoire.
Comme là, cette année, les TP, c'est assez c'est ludique et ça nous apprend plein de choses.
C'est ça, mais ça peut nous arriver un jour. Hein. Surtout, moi, je trouve que la physique-chimie aide beaucoup pour la vie quotidienne chez soi. Ouais. Parce qu'on a de la chimie partout chez soi.
Même si on veut faire notre lessive plus tard, c'est super utile.
Ou rien que apprendre à ne pas faire les mauvais mélanges. Moi, je sais que ma mère a eu un œdème pulmonaire juste parce qu'elle avait fait un mauvais mélange et elle ne le savait pas. Ouais. Elle avait mélangé de la javel avec je sais plus quoi pour nettoyer un déménagement et elle s'est retrouvée à l'hôpital. Alors que juste parce que dans son temps il n'y avait pas assez d'informations et la physique chimie c'est très important.
Après la SVT c'est apprendre sur nous et notre planète.
Ouais, c'est sur la planète.
Ouais, c'est ça. Dans ce tronc commun, il y a aussi l'étude de deux langues vivantes. Mm. Donc j'imagine que ce sera forcément l'anglais, évidemment, en priorité.
Oui.
Plus espagnol, allemand. Enfin bref. Est-ce que vous trouvez ça bien toujours qu'on continue à étudier deux langues ?
Ça, c'est important.
Ou est-ce qu'il ne faudrait pas se concentrer plutôt sur une langue, à savoir peut-être l'anglais, enfin ça, LV1, pour justement être quasiment arrivé à un très bon niveau ?
Mais ça, c'est pour le lycée.
Oui, c'est pour le lycée, ça, oui.
C'est bien plusieurs langues, mais peut-être prioriser une, comme là on a. L'anglais, on a plus d'heures.
Non, on n'a pas plus d'heures. Vous avez plus d'heures, vous ?
Si. Mais si, on a plus
d'heures.
Si, on a
plus d'heures d'anglais que d'espagnol.
Ça dépend si tu fais l'option de LV2. Ouais.
J'ai pareil. J'avais 3 heures au début de l'année en anglais, 3 heures en espagnol. Maintenant, au deuxième semestre, j'ai 2h30 d'anglais, 2h30 d'espagnol. Et après, j'ai 3 heures d'espagnol de plus parce que je fais euro, mais sinon, j'ai les mêmes heures.
Très bien, donc vous pensez tous que, autour de la table que l'étude de deux langues, ça peut être bien.
Oui, les langues, c'est hyper utile. Enfin, c'est hyper important de savoir communiquer.
Dans tous les boulots, là, c'est... Il y a de plus en plus d'échanges entre les pays, donc il faut savoir parler de plus en plus beaucoup de langues.
Parce que l'anglais, c'est utilisé partout, mais l'espagnol, c'est aussi utilisé en Espagne, dans tous les...
En Amérique du Sud,
tout ce qui est Amérique centrale, Amérique latine. Parce que dans l'Amérique du Sud, il n'y a que le Brésil où ils parlent portugais. Tous les autres pays, ils parlent espagnol. Et l'allemand, c'est pareil.
L'allemand, c'est la première langue parlée en Europe, donc c'est aussi important.
En Pologne, tout ça, ils comprennent l'allemand, donc c'est ça.
J'aimerais vous poser une question par rapport au chinois. Selon moi, le chinois, ça va devenir la langue.
C'est important quand même.
Je crois que c'est la langue la plus parlée au monde déjà, Shuna.
Parce qu'ils sont beaucoup en Chine, donc forcément.
Ils sont 1 milliard.
Au moins plus de 930 millions de locuteurs natifs de chinois. Et c'est quand même bien de savoir.
Je pense que pour le moment, le chinois, il prend le côté industriel. C'est-à-dire que pour le moment, c'est vraiment pour tout ce qui est.
Commerce. Pour moi, ça va être le chinois, c'est la langue du commerce.
Ça. Donc, je pense que quand on veut partir dans le commerce, je pense que c'est important d'avoir fait chinois. Ça peut vraiment aider. Anglais, chinois. Je pense que quand on est dans le commerce, si possible, si on peut parler une troisième langue, c'est-à-dire soit l'espagnol, soit l'allemand, mais je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur l'anglais et le chinois quand on est dans le commerce.
Faire en option le chinois ou...
Mais le problème, c'est que ça peut pas...
Ils devraient mettre en deuxième langue...
J'ai peur de ça.
Rajouter chinois en deuxième langue à la place de l'allemand et l'espagnol.
Oui, pas beaucoup de professeurs de chinois, déjà.
Qui aurait allemand, espagnol, chinois.
Ouais.
Qui aurait les trois là, En LV2 possible, c'est vrai.
Très bien. On va maintenant parler des spécialités. Donc en première, les élèves... qui arriveront après nous, parce que nous ne sommes pas concernés par cette réforme du bac. Les élèves qui arrivent après nous donc, pourront choisir 3 disciplines donc, en première, donc pour un total de 12 heures. C'est ça. Et ensuite, abandonner une de ses spécialités, en terminale pour en avoir deux, 12 heures aussi.
Et qu'est-ce qu'ils proposent comme spécialité?
Justement, donc, alors maths, accrochez-vous parce qu'il y en a pas mal. Il y a art,
ouais.
Écologie, agronomie et territoire, donc ça forme une matière.
Ouais.
Une autre matière qui s'appelle histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Une autre matière qui s'intitule humanité, littérature et philosophie.
Okay.
Une autre langue et littérature étrangère. Ensuite, il y a maths.
Donc, LEA.
Il y a numérique et sciences informatiques. SVT, sciences de l'ingénieur, sciences économiques et sociales, donc SES, économie quoi, et physique, chimie. J'aimerais avoir un peu votre avis déjà. Est-ce que ça vous semble bien? Est-ce que vous pensez que le gouvernement avec ça fait le tour un peu de tout ce qu'on peut aborder?
Je pense. Ouais. Après, le problème revient le même. C'est sûr que si tu sais pas ce que tu veux faire plus tard, c'est un peu plus compliqué. Mais pour tous ceux qui savent, c'est carrément bien parce que
mais même si tu veux pas, si tu sais pas ce que tu veux faire, tu peux choisir du littéraire et comme du
scientifique, ce que t'aimes et
si je sais pas, moi je sais que par exemple, je suis pas du tout scientifique mais je suis fan de physique chimie. Bah c'est vrai que c'est bien pour les littéraires qui par exemple je sais pas, moi par exemple, j'aurais certainement pris physique chimie, SES et histoire géo et sciences po, enfin histoire géo sciences po. J'aurais et pourtant il y a des trucs qui se ressemblent pas quoi, bah physique chimie et sciences po, c'est pas
mais
pareil.
Mais après il faut voir aussi les écoles supérieures selon ce qu'ils prennent.
C'est
ouais,
ça.
C'est ça. Est-ce que vous pensez pas que justement au bac, donc l'épreuve du bac en elle-même comportera 4 épreuves, donc toujours celle de français anticipé en première, donc écrit oral comme maintenant.
Normal.
2 épreuves de spé, à savoir les 2 spé en terminale.
Ouais.
Ainsi que la philo en fin juin.
Et le quatrième, c'est pas l'oral, non?
La quatrième, c'est l'oral, le grand oral sur un thème préparé depuis la première. Donc, passage de 20 minutes.
Ça qui est très bien.
Ça m'a l'air d'être un peu comme les TPE, en gros.
C'est ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont contre cet oral parce qu'ils disent oui, mais pour les timides et tout ça. Mais le problème, c'est que c'est justement cet oral.
Il faut apprendre à s'ouvrir.
Voilà. Parce que c'est dur quand on cherche un boulot d'être très timide parce qu'il va falloir lui parler au patron. Il n'y a pas le choix. Sinon, il ne peut pas deviner en lisant juste un papier si t'es intéressé.
Les gens
quoi.
Qui t'interrogent, ils voient des gens toute la journée.
C'est
donc,
ça.
Donc, ils ne vont pas forcément retenir tes défauts.
Voilà.
Donc, être timide, c'est un peu avoir peur de ses défauts quand même.
C'est ça.
Puis la communication dans une entreprise, c'est quand même la base.
C'est ça, bah, la communication c'est plus qu'important de toute façon.
On a besoin partout, ça, la communication.
C'est ça, donc.
Je connais pas un métier où il y a
zéro
communication.
J'ai toujours dit, je connais pas un métier où on peut pas parler. Enfin, c'est impossible,
prof
même.
Prof de langue des signes.
Mais tu parles, tu communiques,
bah
tu communiques
surtout,
avec ta
gestuelle,
oui,
la langue
non,
des signes.
Donc si t'es timide, tu peux quand même avoir peur de parler avec tes mains, dans les deux cas.
Ouais.
Donc la timidité, non, je dis pas qu'il faut qu'il y ait plus personne qui soit timide. On peut encore avoir sa petite timidité, mais je pense que l'oral de maturité peut vraiment apprendre à parler, à communiquer, à dire ce qu'on pense. Je pense qu'il est très important et franchement, j'aurais bien voulu l'avoir.
Très bien. Donc, excusez-moi, je sais plus. Oui, c'est les options aussi qui seront conservées. Alors. En première, l'élève pourra choisir parmi le latin, le grec, le sport ou alors une troisième langue vivante, dont on parlait. Et en terminale, les choix donc, se portent entre, attention, alors là, faut s'accrocher, droit et grands enjeux du monde contemporain, mathématiques expertes et mathématiques complémentaires. Alors, je ne sais pas trop la différence entre maths expertes et maths complémentaires.
Bah, expert, c'est un plus grand nombre d'heures.
Non, mais expert, c'est
que
tu fais des heures, choses hors programme et complémentaires, c'est tu revois les choses du programme.
Ça doit être ça.
Je pense que c'est ça.
Sans doute, oui. Donc par rapport à ces donc les options en première, bon, on les connaît, hein, c'est celles qu'on a déjà maintenant. Mm-hmm. Par rapport à celles en terminale, qu'est-ce que vous avez à me dire? Est-ce que vous pensez que ce serait utile? C'est utile plutôt pour l'élève, pardon.
Je n'ai pas compris ta question.
Est-ce que les options proposées en terminale seraient utiles
c'est
pour l'élève?
C'est pas les mêmes qu'en première.
C'est des options en plus que tu peux choisir seulement en terminale.
Ah d'accord, les options dont tu m'as parlé, c'est seulement en terminale.
Oui.
Oui, bah, je pense que ça fait plus de choix pour l'élève s'il a envie de se spécialiser dans quelque chose.
Puis en général, en terminale, t'as plus d'expérience, donc tu sais vraiment ce que tu veux
faire. Généralement, tu sais ce que tu veux faire en terminale. Donc
c'est bien quand même.
C'est vrai que, par exemple, si tu veux être ingénieur, ça peut vraiment être pas mal d'avoir cette option mathématique expert, par exemple. Donc...
C'est sûr, mais est-ce que vous pensez pas aussi, est-ce que, alors je sais pas comment ça va se passer, est-ce que quand on sort, quand on a fini le bac, on a le bac S, ES, L ou Bah, peu importe la série. Je sais pas comment ça va se passer en fonction, à mon avis, ça va se faire en fonction des spé. Mais est-ce que vous pensez pas que Léla serait un peu cloîtrée? C'est-à-dire s'il a choisi, par exemple, je sais pas, écologie, agronomie et territoire et mathématiques, il serait pas un peu cloisonné dans ça, et s'il voulait faire autre chose, ce serait plus possible?
Ouais, si, parce que par exemple, il y en a qui peuvent prendre les choses qu'ils aiment, mais par exemple, ça peut les bloquer plus tard.
Ouais, c'est vrai.
Donc c'est un peu compliqué de...
Ouais, après, il faudrait que du coup, même pour l'emploi, ça change. En fait, si on change les réformes du bac, il faut que l'emploi, enfin la façon dont les employeurs cherchent en fonction de leur diplôme, change aussi.
Cherche mettre par exemple dans la liste de critères de matière.
C'est ça.
Et voilà.
Mais c'est vrai que du coup, il faudrait que vraiment ça soit bien organisé pour que si tu veux faire, je sais pas tel métier, hein, on va reprendre ingénieur par exemple, qu'ils te disent, bon, si tu veux être ingénieur par exemple, tu es obligé, entre guillemets, si tu veux avoir plus de chances qu'on te prenne, de faire telle.
Oui, il faudrait des recommandations.
Par exemple,
c'est ça, pas d'obligation.
Il faudrait établir une liste, par exemple. Voilà. Par exemple, pour médecine, t'es obligé d'avoir maths et physique.
C'est ça.
T'es obligé de les avoir, sinon tu peux pas arriver en médecine comme ça et il te manque des connaissances.
Parce que on aurait pas... Tu sais, les gens, des fois, ils se renseignent pas vraiment sur le métier. Ils disent, je veux faire tel métier, mais ils se renseignent pas vraiment. Et ils peuvent se retrouver à prendre... Je sais pas, tu veux faire un métier, puis tu prends L, puis tu te retrouves bloqué parce qu'en fait, finalement, il aurait mieux fallu que tu prennes ES ou S, mais on t'a pas bien renseigné. Donc c'est pour ça que je pense que cette façon de changer le bac, il faut aussi avoir une bonne organisation avec des recommandations et tout ça, ouais.
Alors à propos de l'orientation, il y aurait 1h30 par semaine consacrée à l'orientation.
Ah, ça, c'est pas mal.
Ça, c'est bien.
Justement.
Ouais. C'est bien parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire.
J'espère que ce sera différent de la paix. Hein,
Oui.
Sans être méchant envers la paix, on ne fait pas beaucoup d'orientation.
La merde.
Non. On en fait quand même. On en fait quand même. Hein. Ouais, ça sert, c'est utile.
Ça dépend.
Franchement, on a eu des présentations de bac. Franchement, c'était super bien fait. Ouais.
Mais ça dépend dans quelle école. Moi, par exemple, à mon lycée, il n'y a pas beaucoup d'orientation. On fait beaucoup d'AP. On fait pas beaucoup d'orientation pendant l'AP. On fait beaucoup de projets. Enfin, en maths, de toute façon, c'est pas compliqué, on fait que des maths, hein. C'est juste des cours de maths en plus. Et en français, on fait des petits projets par-ci par-là, mais c'est un peu l'histoire des arts, en gros, qu'on fait, nous.
Donc, par rapport au temps de cours, on en est à 28 heures en première et 27 heures 30 en terminale, c'est raisonnable, vous pensez?
Oui. On travaille, c'est une semaine de 35 heures, on arrive quand même à avoir une vie à côté, donc je vois pas, 27 heures, pour moi, ça va.
Ouais.
Très bien, on va vite terminer, parce que Julie me fait des signes à la régie, on va vite terminer par Parcoursup, la nouvelle plateforme consacrée aux grandes études qui a été mise en place, donc qui vise à réduire le taux d'échec en première année de fac. Donc pour Frédéric Vidal, qui est la ministre de l'enseignement supérieur, donc le but c'est de faire entrer tout le monde à l'université. Seulement, il n'y aura plus de tirage au sort par rapport à APB.
Bah ça c'est bien, hein, le tirage au sort.
Ça laissait beaucoup d'élèves sans place. Ouais. Les enseignants donc vont choisir eux-mêmes les candidats et les syndicats dénoncent une sélection déguisée. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que les enseignants donc maintenant vont étudier chaque profil d'élèves eux-mêmes? Donc déjà ça va représenter un boulot assez conséquent. Eux-mêmes se plaignent de ça et en plus on les accuse que ce soit une sélection déguisée. Est-ce que vous êtes d'accord?
Bah ça dépend. Après moi je pense que si t'as un professeur qui te fait une fiche, enfin je sais pas trop comment dire, et que ce professeur a un différent avec toi qui ne t'apprécie pas forcément.
C'est les professeurs d'études supérieures. Hein.
Ah oui.
C'est les professeurs d'université qui regardent et selon le candidat, ça l'aide de motivation,
c'est
écrit.
Comme ça, c'est à ta juste valeur.
C'est au mérite.
C'est pas au hasard où t'as une personne qui pourrait très bien être mauvaise et avoir un mauvais comportement et être sélectionnée. Tandis qu'il y a une super bonne personne qui a été refusée parce que
ça doit être au mérite. Pour moi, ça doit être au mérite.
Bah après, quelqu'un qui bosse pendant 3 ans et qui n'est pas pris, alors que quelqu'un qui n'a même pas bossé est pris et partira au sort.
Après, il y a des gens qui ont des difficultés. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la bourse au mérite au brevet. Ouais. Moi, je l'ai eu, par exemple, et ce n'était pas que pour les gens qui avaient des très bonnes moyennes.
Pour ceux qui font des efforts.
C'est pour ceux qui font des efforts. Moi, par exemple, j'ai eu une moyenne de 15 toute l'année, donc je l'ai eu. Et parce qu'il fallait avoir la mention au brevet. Mais j'ai eu des gens dans ma classe qui l'ont eu parce qu'ils avaient commencé à une moyenne de 9-10. Et parce qu'ils avaient des difficultés et ils sont arrivés à 13. Et c'est beaucoup pour quelqu'un qui a des difficultés.
Ah ouais.
Et donc, S'il est passé de 9 à 13, c'est bien qu'il a travaillé. C'est forcément qu'il a travaillé, il n'a pas pu l'avoir comme ça. Donc pour moi, il faut que ça soit au mérite. Ouais. Ça doit être comme ça.
C'est après les personnes qui ont, des facilités.
C'est ça.
Ça se fait pas non plus parce qu'on n'est pas tous avec des facilités.
C'est ça, donc il doit y avoir les personnes bien sûr qui ont travaillé et qui ont une bonne moyenne, mais on ne doit pas rester que sur la moyenne. On doit aussi voir ceux qui ont augmenté, par exemple, ou ceux qui avaient un mauvais comportement au début, pour, je sais pas, parce qu'il avait des problèmes dans sa famille, mais qu'il a fait des efforts et qu'il a réussi à se contenir à la fin. Enfin, pour moi, ça doit vraiment être du mérite.
D'accord, donc ça doit être valorisé. Fait que ce soit les enseignants, donc ça leur ajoute beaucoup de travail, sachant que c'est entre 25 et 35 minutes pour un dossier. Emma, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est normal que ce soit les enseignants qui étudient les dossiers?
Bah, je sais pas, mais je pense que... Ouais, c'est... Je sais pas du tout, mais je pense
après,
que c'est
si c'est tous les enseignants qui s'y mettent, ça va être réparti.
Ça va vite, après.
Voilà.
Ou alors, ils peuvent être, par exemple, aidés par d'anciens élèves qui connaissent bien l'école.
Je sais pas.
Pourquoi pas, après savoir. Bon, en tout cas, on a fait un peu, je pense, le tour de la scolarité en France. Merci de nous avoir écoutés et d'écouter l'Actualiteam chaque semaine. Je remercie Chloé.
Pardon. Au revoir.
Élise.
Au revoir.
Emma.
Au revoir.
Ainsi que Julie à la régie.
Au revoir.
Voilà, donc merci de nous écouter. Au revoir.